un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Il s'est éteint ce lundi 9 janvier 2023 à l'âge de 97 ans. Il aura passé sa vie à en cacher la moitié de sa vie, une vie en secret, ce qu'on appelle une double vie. On pense d'abord à ces hommes qui ont une deuxième femme, une deuxième maison, un second ménage, des autres enfants, un deuxième chien peut-être. On pense à cet homme qui se dit médecin et pendant 18 ans part tous les matins de chez lui pour aller travailler, au lieu de quoi il se promène dans les bois. On pense à ce maçon qui le soir s'habille en femme et va faire son numéro au petit cabaret de Kouquek, sans que nul ne connaisse cette partie de lui-même ni de sa vie. On pense au calife de Bagdad qui la nuit venue se déguise en marchand et parcourt la ville incognito, drapé dans son grand manteau et dans son beau secret. La double vie d'Adolfo Kaminski ne ressemble à rien de tout cela. Elle se passe à cacher tout le bien qu'il fait, son dévouement héroïque à des idéaux, à sa conscience, une vie à poursuivre dans l'ombre, un combat obstiné qui change de forme avec les années. Il est né en 1925 à Buenos Aires et s'installe à Paris, encore enfant, vers 7 ans. Grandi dans une famille juive russe, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale qu'il se révèle et commence tout naturellement à se cacher. Le secret qu'il garde si précieusement sur ses activités pendant toutes ces années est une condition de leur réussite. Tout de suite, avec sa fille, ils racontent tous les deux cette vie de grand homme discret pour les pieds sur terre dans un entretien enregistré par Ilana Navarro en 2016 et que je vous propose d'écouter ou de réécouter.
Je m'appelle Sarah Kaminski et je viens d'avoir 37 ans. Je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans. Je suis née en Algérie. Je suis née d'un couple mixte. Donc mon père est argentin d'origine russe, ayant vécu presque toute sa vie en France. Et ma mère est algérienne, elle est d'origine touareg, elle a la peau noire, voilà. Donc quand on est arrivé en France après l'Algérie, on a grandi en région parisienne dans le 94. On s'est installé à Thiers. Où mon père était éducateur de rue, il a trouvé ce travail-là, donc il s'occupait de jeunes qui avaient souvent des petits problèmes de délinquance et qui habitaient le quartier ou les environs. Donc je le voyais faire ça, je le voyais faire de la photo, en tout cas leur apprendre à faire de la photo, donc je savais qu'il était aussi photographe, mais voilà, c'est tout ce que je savais. Je saurais pas dire comment j'ai su. Il n'y a pas eu un moment, il y a eu plein d'indices qui nous ont mis la puce à l'oreille sur le fait qu'il avait pu avoir des activités dont on ne comprenait pas encore grand-chose. Mais du coup, un jour, je n'ai pas eu une bonne note et j'ai voulu falsifier la signature de ma mère. Et je me suis entraînée, puis je l'ai faite. Donc je l'ai montré au professeur et un jour, ma mère l'a vu, la copie, dans mon sac. Et elle a tout de suite vu que ce n'était pas sa signature. Donc elle m'a engueulée, je suis partie me cacher dans ma chambre, et puis mon père est rentré le soir. Il est rentré dans ma chambre, donc moi j'étais un peu cachée sous les couvertures. Et il s'est assis sur le lit avec la copie, et il a éclaté de rire, en disant « Mais enfin Sarah, t'aurais pu t'appliquer, tu vois bien qu'elle est trop petite cette signature. » Et je pense que ça l'a fait marrer que j'étais une piètre faussaire.
Oui, je viens t'aider.
Je m'appelle Adolfo Kaminski, je vais avoir 91 ans bientôt. Je suis né en Argentine, de parents russes. Et puis, dès qu'on est arrivé en France, j'avais 7 ans, et mes parents ont décidé qu'on ne parle que le français à la maison. Donc, j'ai perdu l'espagnol qui était ma langue natale, un peu de yiddish, un peu de russe. On ne parlait plus que français. Je rentrais à l'école communale, j'avais 7 ans. J'étais un bon élève, j'avais aussi beaucoup de camarades. J'ai quitté l'école après le certificat d'études, c'est-à-dire 12 ans et demi. Mes parents étaient très pauvres, donc j'étais dans le monde du travail dès l'âge de 12 ans et demi. Alors, j'ai d'abord travaillé un peu à l'usine, Et puis, quand j'ai eu 14 ans, je suis rentré dans une teinturerie. Et là, j'ai découvert la magie de la couleur. Donc, je me suis jeté sur tout ce qui parlait de chimie, de couleur. J'ai monté mon premier laboratoire pour pouvoir faire des expériences sur les matières colorantes. Mon patron était ingénieur chimiste. En remuant les vêtements qui bouillaient dans les grandes bassines, je lui posais des questions, il me répondait toujours, et ensuite je faisais des expériences. Donc, sans me rendre compte, j'ai acquis des connaissances en chimie qui sont même aujourd'hui encore reconnues.
Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, alors un beau jour, on s'est retrouvé à Drancy. Donc j'ai vu des milliers de personnes déportées. On savait à quoi ils étaient destinés. Dès qu'il y avait 1000 personnes, il y avait un convoi qui partait. Il y en avait plusieurs par semaine. Mais on n'a pas été déportés parce qu'on était argentins. Et le consulat d'Argentine a mis 3 mois à nous sortir de là. Mais on a été très vite recherchés de nouveau parce que les relations entre l'Argentine et l'Allemagne se sont envenimées. Et donc, il a fallu se cacher, il a fallu avoir les faux papiers. Donc, c'est grâce au besoin de faux papiers pour moi-même que je suis rentré dans la résistance. J'ai été au rendez-vous avec une photo. Le jeune homme qui était un ingénieur chimiste m'a dit « Voilà, on te change ton nom, tu gardes les initiales et puis je te mets étudiant ». Je dis « Non, je pas étudiant parce que j'ai besoin de vivre, de travailler. Donc qu'est-ce que je mets ?» J'ai dit « Teinturier ».« Teinturier, mais tu sais décolorer les encres ». J'ai dit « Oui ». Eh bien, on a un problème, c'est l'encre bleue Waterman. J'ai dit, mais c'est du bleu de méthyle. Comment tu sais ça? Ben, j'ai dit, parce que je travaille dans une teinturerie et on analyse la quantité d'acide lactique de la crème et du lait à la vitesse de décoloration du bleu de méthyle. Alors, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec nous? Évidemment, c'était mieux que d'aller dans une teinturerie, etc. Donc j'ai été pris en charge par la résistance. Et quand je suis arrivé au laboratoire, ils écrivaient les nouveaux noms. C'est-à-dire, parce qu'il y avait les cartes d'alimentation, même les enfants en bas âge avaient une carte d'alimentation avec un tampon juif en rouge. Et puis il y avait les noms. Quand on s'appelle Israelovitch David, il vaut mieux s'appeler Jean-Pierre Dupont. Donc il fallait décolorer simplement ce qui existe et ils écrivaient les nouveaux noms. J'ai donc changé toutes les méthodes de travail, mais j'ai trouvé que c'était insuffisant. Donc j'ai mis en route la photo, la photogravure, l'imprimerie. Mais là, c'était beaucoup de bricolage. Par exemple, j'avais fait une centrifugeuse avec une roue de bicyclette. Enfin, il y avait tout un matériel très sophistiqué, très efficace, avec rien du tout. Le bricolage intelligent. C'est quoi ça?
On peut montrer. En fait, il a gardé des faux papiers qu'il a confectionnés lui-même, des tampons qu'il a confectionnés également. C'est la Seconde Guerre mondiale dans cette boîte, spécifiquement.
Voilà, ça c'est un passeport allemand. Il y a perforation, alors là, filigrane, c'est un travail énorme. Une fois que les plaques étaient organisées, j'en faisais une centaine en tournant la manivelle. Voilà, carte d'alimentation. Alors, il y avait le nom, prénom, il y avait le tampon juif en diagonale. Et puis là, il y avait tant de farine, tant de ce qu'on avait droit tous les mois. Ça, c'est le tampon allemand nazi. Bon, la carte d'identité ou le passeport sont censés pouvoir être falsifiés, surtout à cette époque. Mais de traîner dans sa poche une enveloppe avec le timbre de la poste, la lettre de la maman, etc., c'est une preuve d'identité, plus prise en considération que le passeport ou que la carte d'identité.
Il fallait inventer un scénario, en fait, pour que ça puisse être crédible.
Oui, bien sûr, absolument.
À un moment, ils ont eu une demande qui était tellement importante qu'ils pensaient ne pas pouvoir réaliser, d'ailleurs, tellement il y avait de faux papiers à faire pour beaucoup, beaucoup de maisons d'enfants qui allaient être raflées en même temps. Et à ce moment-là, il n'a pas dormi pendant 3 jours. Non-stop, il n'a fait que travailler et il est resté éveillé en se disant que, en gros, il arrivait à remplir 30 faux papiers en une heure et que s'il dormait une heure, il y aurait 30 faux papiers en moins pour les enfants le jour de la rafle.
À cette époque, c'était jour et nuit. J'ai travaillé jusqu'à l'évanouissement. Plusieurs fois de suite, j'ai été réanimé par mes camarades parce que je dormais pas assez. Et j'ai tué mes yeux. Mon œil, il est totalement aveugle. Il est mort et le deuxième va très mal. Mais c'était à ce prix-là que ça a permis de sauver quand même beaucoup de gens. Après la résistance, j'étais pas salarié, donc j'ai vécu de la photo. Je faisais des photos très techniques, c'est-à-dire des reproductions de tableaux, de sculptures, pour des catalogues et pour des galeries. Et ça, c'était payé, ça me permettait de refuser d'être payé pour tout ce qui est faux papier, pour ne pas être dépendant, ne pas être obligé de faire ce pour quoi je n'étais pas d'accord quelquefois. À ce moment-là, j'étais déjà au courant de l'immigration clandestine vers la Palestine, c'est-à-dire les Juifs ne pouvaient pas aller en Palestine, on les détournait, on les internait à Chypre, donc je ne pouvais pas rester insensible à ces gens qui n'avaient plus où aller, etc. Donc j'ai aidé les bateaux clandestins, pour les passagers, pour des passeports, des titres de voyage, il fallait des ordres de mission, etc.
Du coup, finalement, vous n'avez pas voulu, vous aussi, partir vivre en Israël ?
C'est-à-dire, si j'avais l'intention d'y aller, mais comme ça, je ne suis pas du tout religieux, j'étais élevé en dehors de tout ça. Et puis, les choses se sont compliquées quand le pays a été créé avec une religion d'État. Là, j'ai pas supporté. J'ai tout laissé et j'ai pris des grandes distances. J'ai complètement coupé.
Et du coup, vous avez pensé que c'était la fin de votre vie de faussaire ?
Et oui, bien sûr. Seulement, bon, quand il y a eu la guerre d'Algérie, bon, moi j'ai été en France, le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, et puis de voir que ce pays utilise les méthodes de la Gestapo, la torture, j'ai pas supporté, c'était inadmissible pour moi. Il fallait que cette guerre se termine le plus vite possible pour qu'il y ait le moins de morts possible des deux côtés. Et enfin la fin du colonialisme. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aider. Donc, le faussaire principal, c'était moi et une équipe.
Ça, ça, par exemple, ce sont des faux papiers que mon père a fait pour une des échappées de la petite roquette.
Là, j'ai fait pour les 5 évadés de la roquette.
C'était 5 femmes qui se battaient pour la libération de l'Algérie, qui étaient dans le réseau Jean Sans,
oui,
c'est ça?
Oui, oui, et c'était les seules évasions depuis que la prison de la roquette existe.
Et donc pour elles, il avait fait un paquet entier, parce qu'elles passaient plusieurs frontières pour aller jusqu'en Italie. Donc là, par exemple, elle s'appelle Lucienne Berthoux, c'est évidemment pas du tout son nom, sa carte d'identité suisse, quand elle est devait passer par la Suisse. Ici, elle s'appelle Anne-Marie Marchand, donc et la photo est un peu différente, voilà, et elle est française. Ici, c'est son permis de conduire international.
Et imprimé par moi.
Voilà. Même les tout photos ont été prises par lui. Ce qu'il a gardé, parce que normalement, quand il faisait les faux papiers, évidemment, il les donnait à quelqu'un et donc il ne les récupérait pas. Donc beaucoup de choses qu'il a gardées sont soit des ratés ou des travaux en cours, mais effectivement, il devait y avoir la petite erreur qui fait que ce papier n'a pas été donné.
Il n'y a rien écrit là, c'est tout préparé, mais je n'avais pas les renseignements nécessaires. Je n'avais pas à garder les archives de gens qui étaient mis en sécurité. On m'avait trouvé, on regardait dans mes boîtes et il ne fallait pas que ça compromette qui que ce soit.
Donc après la guerre d'Algérie, y avait tous les mouvements de libération d'Afrique. Donc il y avait la Guinée-Bissau, l'Angola, l'Afrique du Sud, puisqu'il faisait des faux papiers pour les dirigeants de l'ANC au moment où le parti était illégal. Et puis tous les pays d'Amérique latine qui étaient en lutte contre des dictateurs. Donc il y avait des résistants à aider en Argentine, au Chili, au Mexique, au Pérou, à Saint-Domingue, Brésil, Costa Rica. Voilà, il a aussi fait des faux papiers pour des déserteurs américains qui ne voulaient pas aller faire la guerre du Vietnam, voilà.
Alors j'ai aussi aidé des républicains espagnols, les Grecs qui avaient leur dictature, il y a eu, c'était interminable. Je refusais d'être payé pour ne pas être un mercenaire et pouvoir dire non si ça ne me plaisait pas, s'il y avait une action politique ou des choses, bref.
J'avais jamais été repéré.
J'ai fait tout ce qu'il faut pour ne pas être repéré. Et je pense que quand je suis parti vers la clandestinité, c'était de justesse.
Je crois que mon père était intransigeant sur les codes de sécurité. Donc il fallait que personne ne vienne dans son laboratoire, que les rendez-vous soient fixés avec des codes pour permettre que personne ne puisse avoir entendu au téléphone. Enfin, il avait comme ça développé tout un tas de techniques de cloisonnement pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il a appliquées et fait appliquer aux autres pendant la guerre d'Algérie.
Parce que la sécurité, c'est la longue durée. Il faut faire attention à ne jamais laisser de portes entrouvertes aux indiscrétions, c'était une question de survie. Puis un jour, on m'a demandé un passeport pour l'Afrique du Sud. On m'a donné un modèle avec un beau jeune homme d'une trentaine d'années, noir évidemment. J'ai donc fait les reproductions, j'ai préparé pour faire les passeports et j'ai rendu l'original, bien sûr. Et très peu de temps après, quelqu'un d'autre, d'un autre réseau, me donne le même passeport avec la même photo du jeune homme en me demandant combien de temps et combien d'argent. Ça, j'ai trouvé ça très louche. C'était un authentique passeport de Monsieur X avec sa photo, mais des personnes différentes donnaient le même passeport. C'était pas possible, il y avait quelque chose de pas normal. Donc j'ai décidé de tout arrêter et de partir un an en Algérie pour me faire oublier. Donc je suis parti en Algérie en disparaissant comme ça dans la nature. Et puis je travaillais en Algérie. Au lieu de rester un an, je suis resté 10 ans. C'était très bien en Algérie. Je n'étais pas obligé de me cacher du tout. Et ça faisait bizarre. Et c'est là que j'ai rencontré sa mère.
Leïla, donc ma mère était étudiante à l'époque à l'université d'Alger, elle étudiait le droit et parallèlement elle soutenait les mouvements de libération d'Afrique et notamment le MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola, et donc ils se sont rencontrés par le biais d'amis communs sur des questions militantes encore.
Son père était imam ? Mais c'était un homme large d'esprit et vraiment adorable, très âgé, mais il connaissait rien de mon passé, mais ma tête lui a plu. Et il m'a fait confiance. Pour beaucoup, je suis un ancien moudjahid, c'est-à-dire un ancien combattant, sans savoir si c'était les armes à la main ou non.
Ma mère, par exemple, son histoire de Seconde Guerre mondiale, elle l'a su, elle était enceinte de leur deuxième fils. Donc personne ne savait. Et lui, il parle pas beaucoup, enfin, et à l'époque encore moins, donc personne n'était au courant.
Alors j'étais inscrit au consulat d'Argentine, mais quand il y a eu la montée de l'islamisme et que sa mère a senti le danger et a exigé qu'on parte du pays, on est venu en France, mais... Même moi, j'étais touriste, j'étais argentin, j'avais pas de papier, il fallait repartir. Et c'est là que j'ai fait les premières démarches et j'ai eu des surprises agréables d'être reconnu, de recevoir toutes les décorations. Je suis citoyen d'honneur de la ville de Vire, je suis citoyen d'honneur de la ville de Grenoble pour avoir sauvé plus de 5000 enfants juifs. Mais c'est pas moi tout seul, c'est l'organisation, c'est les autres autant que moi. L'escabeau est là-bas, oui.
Donc ça, c'est des photos que lui, il a prises sur le mur.
Oui, ce sont des photos qu'il a prises après la libération de Paris. Donc c'est ses premières photos artistiques qu'il a faites, hein, puisque à la base, il faisait de la photo pour reproduire des tampons. Et il ne les avait jamais tirées ni montrées à qui que ce soit avant il y a 6 ans. Donc voilà, on a découvert son travail de photographe, d'artiste, il y a quelques années seulement. Et depuis, il a fait des expositions, donc ça y est, maintenant, il est considéré comme photographe aussi, et pas que faussaire, donc ça c'est chouette. Moi, il m'a semblé qu'il avait fait beaucoup de sacrifices. Des sacrifices financiers, puisque donc il n'était pas payé, il était fauché, il ne mangeait pas tout le temps. Voilà, il a fait des sacrifices de carrière, puisqu'il voulait être artiste, il voulait être photographe, il n'a jamais pu faire une exposition, parce qu'il ne pouvait pas être dans l'ombre et la lumière. Il a fait des sacrifices familiaux, puisqu'il ne pouvait pas s'occuper de ses enfants, tout en ne pouvant pas non plus leur expliquer pourquoi. Et des sacrifices sentimentaux, puisque du coup, si sa compagne n'était pas dans le réseau, elle comprenait pas où il passait ses nuits et je veux dire, en gros, il se faisait plaquer, quoi.
Non, pas beaucoup de fois, mais enfin, en particulier avec Lia,
oui.
Je voulais pas la mettre en danger, elle n'était pas au courant et il m'arrivait de pas rentrer la nuit. Elle pensait que c'était pour coucher avec une autre. Oui, la pauvre, elle a beaucoup souffert, mais... J'avais pas le choix.
Il a été fou amoureux d'une femme, d'une noire américaine, qu'il devait rejoindre aux États-Unis. Et il n'est pas allé la rejoindre parce qu'il a commencé à faire des faux papiers pour les Algériens. Et il a jamais pu lui expliquer pourquoi il n'allait pas là-bas. Et il n'a pas réussi à la faire revenir.
Elle l'a vu.
Oui, je l'ai appelée. Elle était dans les pages blanches. À New York. Donc voilà, j'ai juste fait son nom et j'ai trouvé son numéro et je l'ai appelé pour aller la rencontrer. Elle m'a raconté, ils ont passé 2 ans ensemble, donc elle m'a raconté comme ça un peu la vie de bohème. Il campait, elle était artiste, il était artiste. Enfin bon, voilà, c'est un Germain des Prés. Elle s'appelle Sarah Elisabeth. Je lui dis, mais est-ce que tu sais, Sarah Elisabeth, pourquoi il n'est pas venu, comme prévu, à New York te rejoindre? Et elle me dit, oh, loin des yeux, loin du cœur. Et je lui dis, mais il ne te parlait pas de politique, il ne te parlait pas d'histoire, des guerres. Elle me dit, quoi, la politique? Mais il en avait rien à foutre. Il était comme moi, on était des artistes, on était, voilà. Enfin, et donc, elle avait vraiment pas du tout, du tout conscience de tout ça. Donc, c'est moi qui lui ai raconté l'histoire de pourquoi il n'était pas venu et de tout ce qu'il avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale, puis après, puis encore après, et encore après. Elle était très touchée, en fait, elle était très émue. Elle disait, ah, je savais que c'était quelqu'un de bien. C'était très mignon, ils avaient chacun des cadeaux l'un pour l'autre. Mon père m'avait donné un autoportrait pour que je lui donne, et puis elle, elle m'avait donné des choses. Et quand je retourne aux États-Unis, je vais toujours la voir.
C'est ça, parce qu'il y a les autres boîtes.
Tu veux dire la pleurale et tampon ? Par rapport à tous ces sacrifices-là, parce que moi j'ai eu la sensation qu'il en avait fait beaucoup. Non, il m'a dit qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, qu'il n'aurait pas pu faire autrement et qu'il ne pouvait pas regretter d'avoir sauvé des vies, même si ce pourquoi il s'est battu était finalement, à l'arrivée, pas souvent aussi beau que l'utopie qu'il s'en était faite.
Oui, j'aurais aimé qu'on n'ait pas besoin de faussaire, c'est évident, ni de papier. Oui.
And why? 'Cause you took apart a picture that wasn't right. Pitch burning on a shining sheet. The only maker that you wanna meet. A dying man in a living room, whose shadow paces the floor. He'll take you out in the open door. This is not my life. It's just a fond farewell to a friend. It's not what I'm like. It's just a fond farewell to a friend. I couldn't get things right. A fond farewell to a friend.
C'était Adolfo Kaminski, le faussaire héroïque, et sa fille, une émission signée Ilana Navarro, réalisée par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Clémence Grosse, et diffusée pour la première fois en 2016, et que je vous proposais d'écouter ou de réécouter à l'occasion du décès lundi de Monsieur Kaminski. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris, notre stagiaire, c'est Flavie Champion. Et sachez par ailleurs, chères auditrices et auditeurs, qu'à partir de ce lundi 16 janvier jusqu'au 27 février, je vais m'absenter de l'antenne, car je serai loin et je serai remplacée par ma collègue Karine Lelouette, que je remercie au passage. À vite donc, et restez à l'écoute.
Elle a provoqué la pire catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, la peste.
L'exemple même d'une maladie qui est liée au développement humain et à la manière dont l'humanité s'est développée à une certaine époque.
Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la variole ou le sida, le médecin Renaud Piarou, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va mener l'enquête pour vous. Mécanique des épidémies, 7e saison La Peste, un podcast de Renaud Piarou et Anne de Pelchin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.